Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 3 juillet 2024. En Afrique du Sud, le nouveau gouvernement de coalition a été investi aujourd'hui. Au Kenya, plus de 270 personnes ont été arrêtées à la suite des manifestations de mardi. Les électeurs britanniques sont appelés aux urnes demain jeudi pour des législatives pour lesquelles l'opposition part favori.
L'une des premières grandes questions auxquelles sera confronté un gouvernement Starmer sera la suivante. Comment allez-vous réunir les fonds nécessaires pour restaurer nos services publics en ruine?
Reportage à suivre sur les enjeux de ce scrutin dans la partie magazine. En Inde, une bousculade meurtrière lors d'un rassemblement religieux fait 121 morts. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. L'Afrique du Sud a investi un nouveau gouvernement inédit, composé de plus de 30 ministres et incluant, pour la première fois en 30 ans, des représentants issus de partis politiques, jusqu'ici dans l'opposition. Alexandrine Ollognon.
32 ministres et 43 ministres délégués, dont 32 femmes, ont prêté serment lors d'une cérémonie tenue au Cap et retransmise à la télévision. Ils ont tour à tour juré, en levant la main droite, d'être fidèles à la démocratie devant le président de la Cour constitutionnelle et en présence du président Cyril Ramaphosa. Le vice-président sortant, Paul Machatile, reconduit, a également été investi. Pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, le Congrès national africain, qui a régné seul pendant 30 ans, a été contraint à partager le pouvoir après un revers aux dernières législatives. L'ANC n'a obtenu que 40% des voix et a perdu sa majorité absolue au Parlement. La composition inédite du nouveau gouvernement est le résultat d'un mois d'âpres négociations entre l'ANC et l'Alliance démocratique. Dans l'opposition, les combattants pour la liberté économique de Julius Malema ont dénoncé un cabinet élargi et gonflé qui laisse présager une pression accrue sur les contribuables.
La police kenyane annonce avoir arrêté plus de 270 personnes, dont 204 dans la région de Nairobi. Elles sont soupçonnées d'avoir commis des actes criminels hier lors des rassemblements antigouvernementaux qui ont dégénéré en violence. Les précisions de Nani Talani.
Les forces de sécurité ont identifié les suspects qui se livraient à des activités criminelles sous couvert de protestations et les ont placés en détention, affirme la direction des enquêtes criminelles. Elle précise que 204 suspects ont été arrêtés dans la capitale, Nairobi, et 68 autres dans diverses régions du pays. Il y a eu des échauffourées avec la police, des pillages et dégâts matériels ont été signalés, des voitures ont été incendiées. La DCI a déployé des enquêteurs dans les régions concernées pour poursuivre les suspects filmés par les caméras de vidéosurveillance et les enregistrements de téléphones portables qui volent et détruisent les propriétés et les entreprises de citoyens innocents. Le Kenya est secoué depuis 2 semaines par des contestations déclenchées par un projet prévoyant de nouvelles taxes. 39 personnes ont été tuées et 368 une autre blessées, selon une agence officielle qui fait également état de 32 cas de disparition forcée ou involontaire et 627 arrestations.
Éthiopie, Human Rights Watch dénonce de multiples attaques des militaires contre le secteur médical dans leur conflit contre des milices locales dans la région de l'Amara. Dans un rapport, l'Organisation des droits humains accuse les forces fédérales éthiopiennes et des milices gouvernementales d'avoir attaqué du personnel médical, des infrastructures et véhicules de santé dans au moins 13 localités depuis le début des combats en Amara entre forces fédérales et milices Amara Fano en août 2023. Le premier ministre égyptien Mustapha Madbouly a formé un nouveau gouvernement ce mercredi, marqué par de nombreux changements, principalement à la tête des ministères des Affaires étrangères, de la Défense et des Finances. 4 femmes figurent dans le nouveau gouvernement. Les 30 ministres du cabinet ont prêté serment aujourd'hui même, lors d'une cérémonie retransmise en direct par la télévision d'État. L'Égypte subit les répercussions géopolitiques de conflits régionaux à ses frontières. À l'est, la guerre entre Israël et le Hamas palestinien, à Gaza, et au sud, la guerre civile qui déchire le Soudan. Le président tunisien Kais Saied a fixé la tenue de l'élection présidentielle au 6 octobre prochain, un scrutin lors duquel il devrait briguer un second mandat. Aux yeux de l'opposition, il ne pourra pas y avoir de scrutin équitable et crédible tant que les prisonniers politiques n'auront pas été libérés et que la liberté de la presse n'aura pas été rétablie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors de l'Afrique, alors que les conservateurs au pouvoir au Royaume-Uni sont promis à une défaite électorale demain, l'ancien premier ministre Boris Johnson a fait sa première apparition de la campagne pour mettre en garde contre l'arrivée au pouvoir des travaillistes de centre-gauche. Jacques Aristide.
Si vous voulez vraiment des impôts plus élevés, si vous voulez une immigration incontrôlée et si vous voulez des courbettes inutiles devant Bruxelles, votez pour le Parti travailliste jeudi, a déclaré hier soir Boris Johnson, pourtant en mauvais termes avec l'actuel Premier ministre Rishi Sunak. Après 6 semaines de campagne et 14 ans de pouvoir conservateur, durant lesquels se sont succédés 5 premiers ministres, dont 4 ont dû démissionner, le Royaume-Uni devrait, selon les sondages, basculer au centre-gauche avec le leader du Parti travailliste, Keir Starmer, comme chef de gouvernement. Même l'influent tabloïd britannique The Sun, idéologiquement plutôt proche des conservateurs, a apporté à la veille de ces élections générales son soutien aux travaillistes. Les poids lourds conservateurs, Rishi Sunak en tête, en sont réduits à implorer les électeurs de ne pas donner une super majorité au parti travailliste à la Chambre des communes.
La France a abordé aujourd'hui la dernière ligne droite des élections législatives qui pourrait se solder par l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite ou par une coalition entre gauche, centre et centre-droit sans précédent dans la culture politique de l'Hexagone. À 4 jours du second tour, le paysage politique est plus imprévisible que jamais, avec une forte dynamique en faveur du Rassemblement national de Jordan Bardella, qui rêve de composer le premier gouvernement d'extrême droite en France depuis la Deuxième Guerre mondiale. Toujours en France, Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères du président socialiste François Mitterrand et figure du barreau de Paris, est mort ce mercredi à l'âge de 101 ans. M. Dumas avait également présidé le Conseil constitutionnel entre 1995 et 2000. Les présidents russes Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping se sont entretenus ce mercredi à Astana, la capitale du Kazakhstan. Cette rencontre entre les deux chefs d'État en Asie centrale intervient en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui entend contrer ce que Pékin et Moscou considèrent comme une hégémonie américaine dans les affaires internationales. Plus tôt ce mercredi, le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan, également présent à Astana, a invité M. Poutine en Turquie lors d'un entretien bilatéral alors qu'Ankara propose depuis le début de l'invasion russe en Ukraine ses bons offices de médiation entre Kiev et Moscou. Dans le nord de l'Inde, au moins 121 personnes sont mortes mardi et des dizaines ont été blessées dans une bousculade lors d'un rassemblement hindou. Les autorités de gestion des catastrophes de l'Uttar Pradesh ont publié la liste des victimes, qui sont principalement des femmes. Une enquête a été ouverte. Nathalie Barge.
Selon la police, 250 000 personnes étaient rassemblées pour écouter le prédicateur Bol Baba à Atras, soit 3 fois plus que le nombre autorisé. Selon les autorités de la ville d'Aligarh, une tempête de poussière a provoqué la panique quand les fidèles partaient, mais la police a affirmé que la bousculade est survenue quand ils ont ramassé de la terre où le prédicateur était passé. De nombreuses personnes sont tombées les unes sur les autres, la plupart des victimes sont des femmes. Le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, s'est rendu auprès des blessés. Le premier ministre Narendra Modi a annoncé une indemnisation de 2400 dollars pour les proches des personnes décédées et de 600 dollars pour les blessés. Le président Droupadi Murmu a adressé ses condoléances aux familles endeuillées. La chambre haute du Parlement a observé 1 minute de silence aujourd'hui.
Le gouvernement taliban a discuté avec Washington d'un échange de prisonniers entre 2 Américains détenus en Afghanistan et des Afghans emprisonnés dans la prison militaire américaine de Guantanamo, a indiqué ce mercredi un porte-parole des autorités talibanes. Les discussions sur un échange de prisonniers ont eu lieu avec des représentants américains pendant une réunion organisée par l'ONU au Qatar ces derniers jours, a-t-il précisé. Les États-Unis ont appelé ce mercredi au renforcement des sanctions contre les gangs en Haïti, l'ONU dressant un tableau toujours aussi sombre malgré l'arrivée d'un premier contingent kényan d'une force multinationale de sécurité. Lors d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré que la communauté internationale devrait exiger que les gangs rendent des comptes pour les atrocités passées. Le nouveau premier ministre haïtien Gary Conille, en visite à Washington, a promis mardi des actes et de la transparence à la population excédée par des décennies d'instabilité, tout en jugeant la situation extrêmement complexe. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Congo-Brazzaville a reçu des États-Unis 3 milliards de francs CFA supplémentaires pour soutenir le développement durable, la lutte contre le changement climatique et la conservation des ressources naturelles. 14 groupements agricoles de la Sanga et la Likwala ont déjà reçu du matériel et des subventions pour développer leurs activités de cacao et de produits forestiers non ligneux. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a finalisé lundi la deuxième revue de l'accord en faveur de la Centrafrique au titre de la facilité élargie de crédit pour environ 197 millions de dollars. Cet achèvement permet un décaissement immédiat d'environ 25 millions de dollars pour la République centrafricaine. Pour terminer, la compagnie pétrolière nationale nigériane s'engage à inverser le déclin de la production de brut et remplacer les partenaires qui ne respectent pas leurs engagements en matière de production. Ces co-entreprises, essentiellement de grandes compagnies pétrolières, produisent environ 70% du pétrole nigérian. Abuja veut également remplacer des pipelines vieillissants et créer un club de partage de plateformes avec des partenaires.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Des nouvelles du marché des transferts pour commencer. Iliman Ndiaye quitte l'OM pour Everton.
Oui, l'attaquant sénégalais a signé un contrat avec Everton en Première Ligue selon l'annonce faite par les deux clubs. Le club anglais a précisé que Ndiaye, 24 ans, s'est engagé pour 5 saisons. Aucun des deux clubs n'a donné d'informations financières sur ce transfert, mais selon plusieurs médias sportifs, le club anglais aurait déboursé autour de 20 millions d'euros. Régulièrement titulaire la saison dernière avec l'OM, Ndiaye a seulement marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives en 46 matchs, toutes compétitions confondues.
Amari Traoré est suspendu pour rébellion.
La fédération malienne a prononcé la suspension du capitaine de la sélection après la publication d'une lettre critiquant la gestion du football national. Selon un responsable, Amari Traoré, qui joue en Ligue espagnole à la Real Sociedad, fait partie des joueurs de la sélection qui ont publié en juin une lettre dans laquelle ils déplorent l'absence de résultats depuis des années, la mauvaise gestion de leur sport par leurs dirigeants et le manque de professionnalisme de ces derniers. Les joueurs y menacent de boycotter la sélection si leurs dirigeants ne remédient pas à la crise que traverse selon eux le football malien. La commission disciplinaire a convoqué Amari Traoré qui n'a pas répondu. Le comité exécutif de la fédération a alors décidé de suspendre le joueur de toutes les sélections pour manquement à l'honneur et à la dignité, incitation et fronde contre l'équipe nationale et le football malien, affirme un responsable.
Les oppositions des quarts de finale de l'Euro 2024 sont connues.
Les deux derniers tickets ont été arrachés hier. Les Pays-Bas se sont qualifiés aux dépens de la Roumanie battue 3-0. Pour la première fois depuis 2008, les Néerlandais rejoignent le top 8 continental. En quart, les Pays-Bas vont affronter la Turquie qui a disposé de l'Autriche 2-1. Le tableau complet des quarts de finale se présente comme suit. Vendredi, l'Espagne fait face à l'Allemagne et le Portugal affronte la France dans un remake de la finale de 2016. Samedi, l'Angleterre joue contre la Suisse et les Pays-Bas affrontent la Turquie.
Ici en NBA, LeBron James reste avec les Lakers.
La star NBA a signé un nouveau contrat avec les Los Angeles Lakers pour un montant de 104 millions de dollars sur 2 ans. LeBron James, qui aura 40 ans en décembre, pourra ainsi réaliser son rêve de jouer avec son fils Bronny James, que vient de recruter la franchise californienne. Il va former avec lui le premier duo père-fils de l'histoire de la Ligue. Le quadruple champion NBA avait récemment décidé de ne pas activer la dernière année de son contrat aux Lakers où il est arrivé en 2018 pour 41,4 millions de dollars, selon ESPN et The Athletic. Le nouveau contrat de LeBron James comprend une clause de non-échange, ce qui signifie qu'il ne peut pas être transféré vers un autre club sans son consentement. Meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, LeBron James disputera sa 22e saison en 2024-2025. Il a mené les Lakers au titre en 2020, mais cette année, les Lakers ont été éliminés au premier tour des playoffs.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le Royaume-Uni organise des élections générales demain, jeudi 4 juillet. Les sondages indiquent que le pays est susceptible d'élire un nouveau dirigeant. Comment cela pourrait-il changer la position de la Grande-Bretagne sur des questions clés comme la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine? Henri Ridgwell nous propose ce reportage depuis Londres. Le récit est de Jacques Aristide.
La ville de Dartford, à l'est de Londres, est décrite comme un baromètre du sentiment qui prévaut au Royaume-Uni. Certains de ses habitants affichent leur mécontentement après 14 ans de règne du Parti conservateur. Ils ne sont pas non plus convaincus par le choix alternatif. Yasmine Nichols a 19 ans, bénévole dans une banque alimentaire.
Le peuple anglais ne décide pas réellement de ce qui va se passer dans le pays.
Avis partagé par Ilmi Ilmi, un retraité.
Aucun d'entre eux. Je ne fais confiance à aucun d'entre eux. Surtout quand notre Premier ministre, Boris Johnson, a menti.
Boris Johnson, qui a démissionné après une série de scandales, notamment la violation des règles de confinement liées au Covid-19, est l'un des 5 chefs de gouvernement conservateurs au cours des 8 dernières années jugées turbulentes. Pour des analystes, l'actuel Premier ministre, Rishi Sunak, a du mal à se débarrasser de ce lourd héritage. Ursula Hackett, du Royal Holloway, à l'Université de Londres.
Il y a la question du coût de la vie, mais je pense qu'il y a aussi un sentiment de scandale et de corruption.
Le parti travailliste, dirigé par le chef de l'opposition, Keir Starmer, a une avance de 20 points environ dans la plupart des sondages. Anand Menon, professeur de politique internationale au King's College de Londres.
L'une des premières grandes questions auxquelles sera confronté un gouvernement Starmer sera la suivante. Comment allez-vous réunir les fonds nécessaires pour restaurer nos services publics en ruine?
Face à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, au conflit au Moyen-Orient et aux incertitudes politiques dans le monde, Keir Starmer orienterait-il le Royaume-Uni vers une nouvelle direction? Anand Menon, à nouveau.
Sur les deux grandes crises de notre époque, Gaza et Ukraine, il y a très peu, voire aucune différence entre les positions adoptées par les grands partis. Donc, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de changements.
Les petits partis britanniques pourraient jouer un rôle important dans l'issue du scrutin. Les libéraux-démocrates pourraient conduire les conservateurs à la troisième place. Quant au mouvement réformiste anti-immigration et pro-Brexit, il est susceptible d'attirer des électeurs de droite. Nigel Farage, leader de ce parti, a été largement critiqué après avoir déclaré que l'Occident avait incité la Russie à envahir l'Ukraine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Ici aux États-Unis, des pans entiers de la Californie sont frappés depuis mardi par des vagues de chaleur intenses. La situation devrait s'aggraver pendant cette semaine de vacances du 4 juillet dans certaines régions du pays où près de 90 millions de personnes sont sous le coup d'alerte à la chaleur. Nani Talani.
La capitale de la Californie, Sacramento, a fait l'objet d'un avertissement de chaleur excessive qui devrait durer jusqu'à dimanche soir. Les températures devraient atteindre jusqu'à 46 degrés Celsius. Les services d'urgence conseillent aux habitants de suivre les consignes qui leur sont données.
Christina Coffey, résidente de Fairfield, ville et siège du comté de Solano en Californie.
J'ai entendu dire qu'il allait faire près de 44 degrés Celsius, si je ne me trompe pas,
Et rester à la maison avec ce type de chaleur est assez misérable parfois, même avec l'air conditionné. Alors oui, nous avons décidé de sortir, de prendre l'air et de profiter de la chaleur à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur.
La chaleur en Californie devrait s'étendre du nord au sud au cours de la semaine. Le pire devrait se concentrer sur les régions intérieures, notamment les vallées de Sacramento et de San Joaquin et les déserts du sud. Mais les avertissements s'étendent jusqu'à la côte. Célèbre pour la fraîcheur de ses étés, San Francisco devrait connaître ce mardi des températures maximales de 31 degrés Celsius dans le centre-ville et de 18,3 degrés Celsius à Ocean Beach.
Hilal Zakilwal habite Antelope, dans le comté de Sacramento, en Californie.
Pour être honnête, je me sens très mal parce que je ne suis pas très habitué à la chaleur, même si j'ai vécu 3 ans à Sacramento, parce que là où j'ai vécu toute ma vie et en Afghanistan, à Kaboul, il faisait très froid et l'hiver était enneigé et l'été, ce n'était pas comme ici. Mais je pense que c'est très difficile pour moi. J'essaie d'être à l'ombre, de ne pas être sous la lumière directe du soleil.
Ces conditions torrides sont dues à une crête de haute pression située juste au large de la côte ouest et à une autre crête qui a donné lieu à des alertes et des avis de chaleur depuis les États du Kansas et du Missouri jusqu'aux États de la côte du Golfe du Mexique, selon le Service national de météorologie.
Carl Olson, habitant de Sacramento.
À l'heure actuelle, l'eau de l'American River est probablement dans les 50 degrés. Il suffit donc de faire quelques brasses pour se rafraîchir. Mais dans l'heure qui suit, je serai parti parce qu'il n'y aura plus rien à faire en ce moment-là.
La Californie a connu une vague d'incendies de forêt au printemps et au début de l'été qui se sont nourris d'herbes abondantes produites par des hivers humides successifs. Selon la Société de presse, la chaleur a tué plus de 2300 personnes aux États-Unis l'année dernière, ce qui constitue un record.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Cameroun, la presse écrite et les médias audiovisuels sont florissants. Le pays classé dernier de la CEMAC dans le rapport 2024 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse abrite l'une des plus anciennes écoles de journalisme d'Afrique subsaharienne, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Nathalie Barge a joint à Yaoundé la journaliste Evelyne Mengue-Akung, directrice des rédactions de la CRTV, la radio-télévision camerounaise, enseignante à l'ESTIC.
L'un des défis aujourd'hui de l'ESTIC, l'école de journalisme de Yaoundé, qui a été fondée par Hervé Bourges en 1976, c'est justement sa mutation vers les nouvelles formes de pratique et le nouvel environnement médiatique aujourd'hui pour pouvoir préparer une nouvelle génération de journalistes qui travaillent dans un environnement numérique avec l'IA, l'intelligence artificielle, et qui s'adresse à un public qui n'est plus le public de ces années 1940-1950, qui était sous l'effet de la piqûre hypodermique des médias et donc avalait de manière quasiment moutonne tout ce que les médias déversaient. Aujourd'hui, c'est un public critique qui parfois est plus informé souvent sur la question et qui a la possibilité bien simplement d'aller cliquer sur Google pour avoir une information complète.
Selon le classement de Reporters sans frontières, le Cameroun est classé 130e sur 180 pays en matière de liberté de la presse, ce qui représente une progression de 8 places par rapport à 2023. Evelyne Mengue-Akung souligne la diversité de la presse au Cameroun.
Le premier critère qui apparaît, c'est sa diversité. Diversité des titres de la presse écrite, que ce soit des tabloïds ou des magazines, des chaînes de radio, télévision, parce que la libéralisation du secteur audiovisuel est intervenue au début des années 2000, donc assez tardivement par rapport à la presse écrite. Mais c'est un secteur qui s'est beaucoup développé et qui s'est diversifié avec des web TV et des web radio. Donc c'est un paysage à première vue dynamique. avec une relative liberté de parole. Lorsqu'on parcourt les titres de la presse, on se dit, voilà, on peut s'exprimer au Cameroun dans les médias. Le problème, il est plus subtil en fait. Il est à la fois un contrôle social des médias qui s'exerce de manière subtile à travers, par exemple, le pouvoir économique, les subventions qui sont accordées aux médias, et puis de l'autre côté, le problème de, on va dire, l'autorégulation des médias qui pose un problème. Les journalistes, hélas, s'autocensurent énormément.
Doté d'un paysage médiatique parmi les plus riches du continent, le Cameroun n'en est pas moins l'un des pays les plus dangereux d'Afrique pour les journalistes, affirme Reporters sans frontières dans son rapport, estimant que les professionnels de l'information y évoluent dans un environnement hostile et précaire. Evelyn Mang-Akung.
Également le fait que l'on constate qu'il n'y ait pas une réelle volonté de pouvoir organiser le secteur de la presse. Cette espèce de flou entretenu autour de ce secteur qui est un secteur névralgique encourage l'irruption dans la profession de quelques apprentis sorciers qui ne respectent aucune règle déontologique, ne sont pas sensibles au discours sur l'éthique et qui donnent souvent, malheureusement, de la presse camerounaise une image dévoyée d'une presse qui n'est pas responsable, d'une presse qui n'est pas formée, qui s'éloigne des canons de la profession.
Evelyn Mang-Akung, directrice des rédactions de la CRTV, la radio-télévision camerounaise et enseignante à l'ESTIC.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Dans notre série consacrée à la diaspora internationale, nous présentons Ludovic Baron, un Français de 27 ans installé au Sénégal il y a un peu plus d'un an et qui maîtrise la langue Wolof au point que ses vidéos d'apprentissage du Wolof sont devenues virales sur l'Internet. Alison Fernandez nous en dit plus. Le récit est de Jenny Niwa.
Ludovic Baron, un Français de 27 ans, ne vit au Sénégal que depuis un an, mais il parle déjà couramment le Wolof.
Salam alaikum. Nanga def? Yes, jam. So amna? Ça sonne erne?
Les voisins de Ludovic dans le quartier de Wakam, à Dakar, sont agréablement surpris comme ce vendeur de lait caillé.
C'est surprenant de voir un Français parler couramment le Wolof parce que la plupart des gens qui viennent de France ici ne parlent que le français. Il a vraiment travaillé dur pour apprendre rapidement. S'il a quitté la France pour venir ici, c'est parce qu'il s'intéresse à notre langue.
Ça t'aide pour ton adaptation, ça t'aide à négocier les prix aussi. Ça t'aide à découvrir les gens, découvrir leur culture, vraiment passer des bons moments, quoi. Si je parlais juste français, je ne pourrais pas découvrir les gens, rencontrer les gens de la même manière en fait.
Au Sénégal, 80% de la population parle Wolof. Ludovic Baron a compris que les Sénégalais étaient ravis de voir un Français leur parler couramment dans leur langue et que l'acquisition de compétences en Wolof faciliterait les relations et une communication efficace avec eux. N'ayant pas trouvé suffisamment de ressources en ligne pour apprendre le Wolof, Ludovic a donc décidé de lancer sa propre chaîne YouTube, Apprendre le Wolof. Aujourd'hui, il fait des vidéos courtes et humoristiques, toujours sous-titrées, comme cette vidéo réalisée lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, sur le toit de sa maison, il enregistre une vidéo avec son ami Babacar Ndaw, étudiant et passionné de la langue Wolof. Le thème du jour, les couleurs.
Connaissez-vous le nom des couleurs?
Ah, voilà.
Noir.
Nul.
Beige.
Hal.
Ok, merci Babacar Djerdjef.
Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de permettre aux Sénégalais de parler un Wolof pur. Un Dakarois peut parler dans une phrase où il y aura un mot arabe, un mot anglais, un mot français et un mot Wolof.
Les vidéos sont très populaires et largement partagées dans différents pays du monde, notamment en France, où elles sont suivies par de nombreux Français d'origine sénégalaise.
En fait, pour dire bagage, ils font référence.
J'ai souvent eu ces retours. Le fait qu'ils voient un blanc qui sait parler Wolof, déjà, ils ressentent un peu la gêne, un peu la honte. Ils se disent, ah bah lui, ce blanc-là, il connaît la langue de mes parents, alors que moi, je la connais pas. Mais ensuite, après la honte, vient la motivation. Donc en fait, ça les motive à apprendre la langue. Ils se disent que si quelqu'un l'a fait à partir de zéro, alors moi aussi, je peux le faire.
Est-ce que vous connaissez ces mots?
Un Wolof.
Le marché.
Diaba.
La voiture.
Damarbi.
Les toilettes.
Entre les plateformes TikTok, YouTube et Instagram, Ludovic a déjà plus de 600 000 followers sur son compte Apprendre le Wolof et le nombre ne cesse de croître.
L'élève.
Dongobi.
La bibliothèque.
Kagou.
Les vacances.
Burgurey.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com.